Cette semaine à l'émission, le blogueur Jean-Philippe Marceau nous encourage à être bizarre et le YouTuber Jonathan Picard nous raconte comment il est passé du satanisme à la foi catholique. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode sur l'athéisme. Et je suis accompagné de James Langlois. Bonjour James.
Salut Antoine, ça fait quelques semaines que je n'étais pas venu à l'émission.
Ah, j'allais dire le contraire, mais il me semble que tu es là souvent ces temps-ci.
Non, verbomoteur. Je suis le
verbomoteur. Ah, c'est ça, on se voit dans l'autre show.
Vous connaissez le verbomoteur?
Ouais, c'est une bonne émission animée par notre collègue Simon, actualité sous un regard chrétien.
Oui.
Mais là, pour avoir un regard chrétien, Non, c'est ça, il faut avoir un peu la foi, mais toi, c'est pas, comment dire, t'as eu un long parcours sinueux.
Comme tout le monde.
Oui, mais t'as déjà été athée, James, quand même.
Oh que oui, j'ai déjà été athée.
Oh que oui!
J'étais un fervent athée, militant même, j'avais un chandail sur lequel était écrit « God free ». Et je pense que si j'avais pu brûler des églises, je l'aurais peut-être fait.
Hé là là!
J'ai même apostasié aussi à 18 ans. Apostasie, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est un processus d'auto-exclusion de l'Église, on pourrait dire ça. Là.
Alors, c'est un
discommunion.
C'est un bon niveau d'athéisme, on pourrait dire. Tu es allé assez loin et c'est un peu de ça dont
mais,
tu vas me parler.
Mais Dieu a toujours des mystères. Et puis, 6 mois après mon apostasie, j'ai commencé un cheminement qui m'a progressivement ramené à lui. Donc, comme quoi. Des fois, c'est assez mystérieux.
Rien n'est impossible. Alors, merci d'être là, James. Et aujourd'hui, on a un nouveau chroniqueur, un invité spécial, Jonathan Picard. Bonjour.
Bonjour, Antoine.
On t'a découvert par le podcast, on peut appeler ça comme ça, qui est hébergé chez ecdq.tv, nos amis de la chaîne diocésaine ici à Québec. On trouve ça sur YouTube. Ça s'appelle Catholique Sceptique.
Exactement. Oui.
Tu tiens ça depuis quand, Jonathan?
J'ai commencé à enregistrer les premiers épisodes, on va dire, il y a 6 mois de ça.
OK.
Quelque chose comme ça. Et puis là, on a commencé à les diffuser là, il y en a 10 en tout. Et puis, catholique sceptique, oui, parce que moi aussi, j'ai été, comme James, un athée assez militant et même assez militant pour passer au camp du satanisme, bien que ce soit un satanisme athée. On pourra en jaser.
Ben oui, ça m'intéresse. Alors, ça sera en toute fin d'émission. Merci d'être là, Jonathan. On est très heureux de t'accueillir.
Ben, merci de m'accueillir.
Et on est aussi heureux d'accueillir un chroniqueur régulier à On n'est pas du monde. Et là, cette fois-ci, on voulait l'inviter pour parler du déclin du nouvel athéisme. Il est blogueur et éditeur pour The Symbolic World, lui-même ancien athée. Il voit des symboles dans ses céréales le matin. Accueillons Jean-Philippe Marceau. Jean-Philippe Marceau, bonjour et bienvenue, on n'est pas du monde.
Salut Antoine, merci, je suis content d'être là.
Je t'ai présenté comme un athée, un ex-athée, c'est vrai?
Oui, c'est vrai, comme beaucoup de monde, je pense.
Tout le monde autour de la table, sauf moi, passez par là, on
dirait. Dans le fond.
Oui, comme beaucoup de monde, nous aussi, dans notre époque, dans le fond, tu es un produit de ta génération, Jean-Philippe. Ça fait longtemps de ça?
Ben, moi, oui, comme beaucoup de monde, je pense, à l'adolescence, quitter l'éducation religieuse que mes parents m'avaient donnée, arrêter d'aller à l'église, etc. Puis je suis revenu plus tard pour des raisons intellectuelles puis existentielles à la maîtrise. Fait que j'ai été athée pendant un bon 10 ans, je dirais.
Oui. Mais t'étais-tu un athée militant ou...
Non, plus... j'étais assez passif dans mon athéisme. Okay. Là, je dirais, j'étais juste intéressé par les sciences puis je voyais le monde de façon un peu simpliste avec ça. Fait que, naturellement, j'étais matérialiste, mais j'avais rien fait d'actif pour ça ou pour essayer de le propager. Là. Mm-hmm. Donc, je ne suis pas aussi hardcore que vous autres.
Et c'est le cheminement qui a été emprunté par justement plusieurs de nos contemporains. Hein. Depuis le début du 21e siècle, on a pu assister à une espèce de montée de l'athéisme. En tout cas, l'athéisme avait certainement le vent dans les voiles. On pense à des auteurs conférenciers comme Richard Dawkins. Là, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je pense qu'il a touché Jonathan Picard à une certaine époque. Alors, ces gars-là, ils connaissent, je dis des gars, c'est surtout des gars, ils connaissent un succès indéniable. Mais là, ce courant culturel, Jean-Philippe Marceau, est en train de s'essouffler. Ce courant-là qui a un nom, là, c'est le nouvel athéisme. Là, on peut trouver ça sur Internet. Mais peut-être avant d'arriver au déclin du nouvel athéisme, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là?
Ouais, c'est un gros boom au niveau de l'édition. Plusieurs livres qui sont sortis, un mouvement aussi médiatique de conférences qui est arrivé début des années 2000, surtout après l'attentat du 11 septembre, où ce qui semble s'être passé en rétrospective, c'est que il y avait une genre d'haine contre la religion en général, parce qu'on voyait qu'il y avait des fanatiques qui avaient attaqué les États-Unis. Puis après, ça a fait que dans le monde anglo-saxon, des gens sont mis à faire des livres contre la religion en général. Pas juste contre l'islam, mais en général contre la religion. Puis en plus du fait que c'est possible, disons, de faire des arguments pour ça, qu'on va rechercher ici et là dans la tradition. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui ont des arguments athées en général, des arguments matérialistes en général. Donc, il y a quelques grandes figures de l'athéisme. Celles qu'on connaît le plus, peut-être, sont ce qu'on appelle les quatre horsemen, les quatre chevaliers du nouvel athéisme. Donc, il y a Richard Dawkins, qui est encore un biologiste. Sam Harris, qui était un neuroscientifique et un athée professionnel. Il a surtout publié des livres, dans le fond, dans sa carrière.
Ouais.
Daniel Dennett, qui était un philosophe matérialiste réductionniste et le dernier ouais, qui était un journaliste puis qui s'est mis à écrire sur l'athéisme puis à faire des débats athées etc. après le 11 septembre.
Donc ces auteurs-là étaient les quatre plus influents dans le monde anglo-saxon, mais ils ont été traduits en plusieurs langues évidemment.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que la crise des abus sexuels a joué aussi dans... Il y a eu la mise en lumière de plusieurs abus ou de systèmes d'abus dans certains coins du monde. À peu près dans ces années-là, ça a dû donner du gaz à ce mouvement-là.
C'est sûr que ça a aidé. Là, je dirais que souvent, les nouveaux athées, ce qu'ils étaient capables de faire, surtout de bien faire pour donner leur dû, c'est qu'ils écrivaient très bien. Même des gens comme Richard Dawkins, qui est un biologiste, mais tu lis ses livres, même ses livres de biologie, puis il écrit très, très bien. Même chose pour Richard Dawkins, Christopher Hitchens, il était reconnu pour être un bon orateur, un bon écrivain. Donc, c'est des gens qui écrivaient très bien, puis étaient capables de rapidement aller chercher tous les petits arguments qu'ils pouvaient trouver, que ce soit au niveau culturel ou au niveau intellectuel, puis de les mettre dans des livres ou dans des entrevues que les gens allaient aimer consommer. Fait que le mouvement s'est répandu assez rapidement, mais il n'y avait pas nécessairement des arguments qui étaient toujours très forts, surtout au niveau des arguments plus intellectuels en faveur du matérialisme contre l'existence de Dieu ou contre telle ou telle église. Souvent, on s'est rendu compte après coup que c'était assez superficiel le genre de critique qu'ils faisaient.
Aurais-tu un exemple?
Par exemple, même des gens aujourd'hui qui sont athées, là, dans les gens qui ont remplacé les nouveaux athées comme... aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde qui vont suivre ce que Sam Harris ou Richard Dawkins, etc. font sur l'athéisme. Mais il y a des gens qui ont, des plus jeunes qui ont pris un peu la relève. Puis souvent, même eux vont dire que ouais, si tu lis, disons, comment Richard Dawkins attaque les cinq preuves de l'existence de Dieu dans son livre, on dirait qu'il a fait...
Il va vite.
On dirait qu'il a fait une demi-heure de recherche. C'est vraiment très superficiel.
Okay.
Pas vraiment d'excuses non plus, parce que c'est des arguments qui datent d'Aristote pratiquement, avec des arguments pour contre depuis très longtemps. Puis on dirait que...
Ils n'ont pas puisé dans une tradition athée, finalement.
Pas vraiment, non.
Alors qu'il aurait pu. Pourtant, Dawkins est un disciple de Darwin. Il y a quelque chose là, l'évolution. Il aurait pu s'appuyer sur les épaules des gens qui les ont précédés, non?
Ouais, puis même, il aurait juste pu aller... voir des collègues ailleurs à l'université qui sont dans des départements de philosophie puis de théologie. Puis il y avait des athées là qui auraient donné des bons arguments pour l'aider, mais il n'a même pas pris la peine de faire ça. Il y avait d'ailleurs, au moment où ces livres-là sortaient, des philosophes athées qui étaient professionnellement des gens qui publiaient pour l'athéisme, qui étaient très embarrassés de voir les livres qui sortaient par les nouveaux athées, parce que ça semblait rendre les arguments en faveur de l'athéisme très superficiels. Puis des gens qui faisait une carrière à avoir des arguments rigoureux contre l'Église ou contre l'existence de Dieu, ben il se sentait comme...
Mais il sentait
que ça va pas durer longtemps, on dirait aussi. Là. T'sais, si les gens commencent à associer l'athéisme à quelque chose d'aussi superficiel que ça, on en a peut-être pas pour longtemps.
Comme on l'est parfois aussi dans l'Église quand on voit certains co-religionnaires... sous le soleil, là, tout d'un coup, avec des arguments un peu bidons. On a beaucoup de sympathie, dans le fond, pour nos amis athées. On revient. Donc, le nouvel athéisme que tu décris, là, ce courant du début du siècle, était essentiellement basé sur des arguments ou, disons, sur une vision du monde qui s'appuie sur des arguments scientifiques et non philosophiques, si je te suis bien.
Ouais, souvent, c'était ça. Là. t'avais des figures qui étaient prédominamment dans les sciences, même pour Daniel Dennett, qui était académiquement un philosophe. Lui, si tu lis un peu ce qu'il a fait en philosophie, c'était surtout d'essayer d'évacuer la philosophie puis de la remplacer par du matérialisme. Donc, c'était un des premiers philosophes célèbres à faire ça de façon très rigoureuse. Mm-hmm. Philosophie de l'esprit, c'est un champ où il y a eu beaucoup, beaucoup d'impact. Puis, il était comme un des premiers philosophes à étudier très sérieusement les neurosciences puis à essayer de réduire tout l'esprit aux neurosciences.
Non, pour y aller de manière très concrète, là, mm-hmm. quand on parle de ben justement, c'est mm-hmm. un neuroscientifique, de matérialisme réductionniste, ça veut mm-hmm. dire qu'on réduit l'esprit à simplement des connexions qu'on peut analyser, compter, ouais. observer de ouais. manière très scientifique dans un labo.
C'est essentiellement ça.
Il n'y a rien d'immatériel, finalement.
C'est ça. S'il y a quelque chose qu'on pense qui est immatériel, c'est parce que soit on le conçoit mal puis que c'est vraiment réductible à des mouvements de neurones, ou bien c'est une illusion puis ça n'existe pas. Il y a des gens qui disaient ça aussi. Là. Il y a des gens qui essaient d'expliquer pourquoi on a l'impression qu'on a une conscience irréductible, mais c'est juste un accident de l'évolution, puis c'est utile pour nous de penser qu'on n'est pas juste matériel alors qu'on est juste matériel. Il y a des gens qui avaient ce genre de discours-là. C'est plus très populaire, par exemple, là, depuis une trentaine d'années, même en philosophie. En philosophie, c'est là que ça a commencé peut-être, justement, il y a une trentaine d'années, où on n'était plus d'accord. Il y avait de moins en moins de monde qui était d'accord avec le matérialisme. Comme, à un moment donné, les arguments devenaient trop clairs que ça fait longtemps qu'on piétine à essayer de tout réduire aux neurosciences. Ouais. Puis finalement, ça ne marche pas vraiment. Ça vaut peut-être la peine d'explorer d'autres choses. Puis après, c'est venu même dans les sciences cognitives où les gens se sont mis à essayer de plus réduire les phénomènes à haut niveau, à des phénomènes à bas niveau. Pas juste l'esprit d'ailleurs, ça a commencé avec l'esprit. Mais en général, maintenant, on va habituellement pas vouloir réduire la chimie à la physique. On va pas vouloir réduire la biologie à de la chimie, puis on ne va pas vouloir non plus réduire la psychologie à de la biologie. Hmm. Donc, dans différentes sciences, c'est quelque chose qui est rendu maintenant accepté. Là.
James?
Ça fait penser, il y a un célèbre scientifique qui a dit que tous ceux qui avaient nié l'existence de Dieu, je paraphrase, là, mais qui étaient peut-être des bons scientifiques, mais des mauvais philosophes.
Ah. Oui, parce que naturellement, surtout si tu es un expert comme Dawkins, tu as énormément de succès dans ton monde en biologie, tu connais bien la vision du monde scientifique qui était matérialiste, réductionniste à l'époque. Ouais. C'est facile d'en faire rapidement une philosophie, une vision du monde complète où tu connais tellement bien la vision matérialiste du monde, puis tu as une vie qui a l'air de bien aller. C'est facile de pas passer beaucoup de temps à explorer peut-être d'autres choses, aller voir des collègues de département de philosophie ou théologie pour voir. Il y a peut-être une vision du monde plus englobante que la mienne que je ne connais pas.
Ouais.
Mais ça a été facile pour eux de très rapidement transformer leur matérialisme en une vision du monde tout englobante, publier des livres à un moment où un public était réceptif à ça. On a aussi une époque, non seulement il y avait une haine contre la religion à cause des attentats du 11 septembre. Il y avait aussi beaucoup de prospérité puis de gens comme qui étaient prêts à
beaucoup d'espoir dans la technologie ouais. ou la technique en général, non?
Exactement. On n'était pas encore dans... Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont techno-sceptiques, là, qui voient que les médias sociaux, par exemple, puis toute la nouvelle technologie qu'on a depuis une dizaine d'années semble pas être très bénéfique, puis ça rend des gens sceptiques de la technologie depuis longtemps. Mais début des années 2000, les gens étaient très optimistes que peut-être on est tous réglés.
C'était l'ouverture d'Internet à des marchés plus larges. C'est quand même fascinant
comme
moment.
L'économie grandissait rapidement. Oui. Tout avait l'air de très bien aller.
Oui. L'arrivée d'Internet, notamment, a sans doute aidé à populariser le discours de ces nouveaux athéistes.
Oui, exact. Ça permettait aux gens de connecter, puis ensuite de faire beaucoup d'événements en personne aussi qui n'ont pas duré, par exemple.
Ben, parlons-en, là, tu l'as effleuré un peu, on te voit venir. Qu'est-ce qui a causé la chute de Sparte, le déclin du mouvement?
C'est vraiment intéressant parce que ce qui semble s'être passé, c'est que initialement, tu as des gens qui s'assemblent pour critiquer la religion, mais c'est pas clair qu'est-ce qui anime ces gens-là, qu'est-ce qui les rassemble, outre le désir de critiquer quelque chose en commun. T'sais, une fois qu'ils ont passé, disons, 10 ans à critiquer quelque chose ensemble, puis que là, tu commences à peut-être vouloir créer quelque chose de solide, c'est pas clair qui vont tous s'entendre sur qu'est-ce qu'ils veulent construire à la place. Uh-huh. Puis il semble s'être passé
comme nous ici là autour de la table, il n'y a pas juste l'opposition aux athées qui nous unit là.
Non non, c'est ça, on est aussi ensemble dans la même religion.
Merci, ouais, c'est ça. Continue, excuse-moi.
Ben, bon point, mais ce qui s'est passé, c'est que une fois que justement les gens avaient critiqué ensemble longtemps la religion, il s'est créé deux camps assez clairs. Il y avait un camp de gens qui voulaient juste critiquer la religion, puis qui pensait un peu naïvement, rétrospective, qu'une fois que les gens deviennent athées, ils vont devenir un peu tous des gens comme Richard Dawkins ou Sam Harris, devenir des, comme des grandes figures des Lumières là, qui réfléchissent rationnellement, puis que tout le monde va mieux aller comme ça. Les premiers nouveaux athées qui célèbrent, là, comme les quatre chevaliers du Nouvel Athéisme que j'ai mentionné tantôt, ils pensaient essentiellement ça. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens aussi là-dedans qui avaient des aspirations un peu plus politiques, puis qui pensaient pas. Il ne pensait pas nécessairement qu'on devrait retourner au standard que les Lumières avaient en 1700. Fait que ce qui s'est passé, c'est que c'est arrivé tôt d'ailleurs dans la culture, là, il s'est créé un genre de branche woke ou proto-woke dans le nouvel athéisme assez tôt. On parle de 2010-2011. Mm. Donc c'est un peu plus rapidement que c'est arrivé dans la culture.
C'est l'avant-garde, oui.
Exact. Puis il est arrivé quelques scandales. Peut-être le premier célèbre, ça s'appelle Elevator Gate. Parce qu'il y avait une femme qui avait donné une conférence des nouveaux athées qui parlait contre le sexisme d'une certaine façon. Puis après ça, il y a un gars dans un ascenseur qui a fait des avances. Puis là, après ça, elle a tweeté là-dessus, expliqué que ça n'a pas de bon sens de faire ça juste après la conférence. Puis après ça, Richard Dawkins, qui a l'habitude de faire ce genre de choses-là, est allé faire une blague là-dessus, dire « Ah, oh, c'est donc bien difficile ce que tu vis comparativement à ce que tes sœurs vivent au Moyen-Orient dans tel régime. » Fait que ce genre de choses-là, où tu avais, disons, des gens qui commençaient à arriver avec certaines idées « woke », puis ensuite que les premiers nouveaux athées comme Richard Dawkins
qui avait une petite tendance macho
venaient un peu rire de ça, là ça faisait un genre d'escalade de conflit où là les gens plus woke, ben ils allaient renchérir contre les vieux hommes blancs du nouvel athéisme. Puis là ça faisait une grosse escalade sur Twitter, puis ça a fait ce genre de choses là assez longtemps. Puis là après ça, dans les conférences athées, il y avait toujours des controverses. Là, ils ont dû arrêter d'en faire parce que c'était pas productif, là. Ça faisait juste toujours se nuire. Puis en général, le mouvement finit par se fragmenter. Puis aussi plus tard, non seulement à cause de ces problèmes, disons, culturels internes là, mais aussi à cause de problèmes intellectuels plus vastes, le mouvement a fini par un peu s'éteindre. Intellectuellement, il n'y a plus beaucoup de livres qui sont publiés de ce type-là. Ça n'a certainement plus le même succès. Il n'y a plus de conférences. Il attire moins de gens, par exemple, quand ils font des entrevues, ce genre de choses-là. Donc, le mouvement, comme de l'intérieur, a fini par se dissoudre.
Mm-hmm. Le Peterson est arrivé. Non,
mais en plus, il y a ce genre de choses-là qui est arrivé où, effectivement, disons, les échecs intellectuels du nouvel athéisme sont aussi devenus de plus en plus clairs. Pour donner l'ordre aux nouveaux athées, une des choses qui s'est passée, c'est que il y a beaucoup de chrétiens qui semblaient un peu rester sur leur laurier, où la tradition intellectuelle de l'Église n'était pas nécessairement très en vie, surtout au début des années 2000. Des fois, les nouveaux athées allaient avoir des débats avec des chrétiens, puis les chrétiens souvent s'en sortaient mal. Parce que c'est comme si pendant tellement longtemps, les chrétiens avaient été confortables, c'était pas senti vraiment challengé. Ben, ils étaient comme pas prêts pour répondre à des arguments, même s'ils étaient pas très, très bons.
Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il est né aussi un mouvement d'apologètes chrétiens qui sont venus confronter, exact. Je pense à John Knox, je pense à William Craig, à Peter Kreeft, là, qui ont.
Exact.
Mais c'était très impressionnant de voir ces débats-là parfois. Là.
Exact.
Il y a des bonnes discussions.
Il semble avoir eu une hausse du taux d'enrôlement dans les programmes de philosophie et théologie en réponse à ça. Des jeunes qui ont repris le débat, qui ont utilisé les mêmes genres de médias que les nouveaux athées avaient essayé de faire des choses sur Internet, publier des livres, etc., que des jeunes chrétiens ont décidé d'employer. En plus de gens qui étaient des académiques professionnels, comme tu as mentionné. Puis on dit peut-être, je ne sais pas, autour des milieu des années 2010, disons, la vague avait assez tourné où, au niveau intellectuel, tu avais beaucoup plus de bons arguments, même dans les questions populaires, contre l'athéisme que l'inverse. Tu avais même des figures qui n'étaient pas nécessairement chrétiennes ou croyantes dans une religion reconnue, qui allait dire qu'il y a des sérieux problèmes dans l'athéisme. Un que j'aime bien, c'est le psychiatre britannique Ian McGilchrist. Il écrit un livre que vous connaissez peut-être, ça a fait comme des vagues à la fois dans les milieux chrétiens et non-chrétiens, qui s'appelle « The Master and His Emissary », où il fait une lecture historique de notre civilisation à la lumière de son expertise en neurosciences, où il voit qu'il y a comme deux systèmes qu'on utilise dans notre cerveau pour appréhender le monde, qui correspondent grossièrement à l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, où avec l'hémisphère droit, on a une vision plus holistique des choses. On est plus ouvert au changement. C'est comme ce qu'il appelle le maître aussi, où c'est disons, le premier système, le système le plus puissant, mais qui va déléguer des tâches à son émissaire, qui est l'hémisphère gauche, qui, lui, est bon pour faire des tâches très précises, très rigides, très ordonnées, mais qui ensuite doit toujours retourner au maître pour être capable de bien fonctionner parce qu'il est comme trop myope. Il manque trop de contexte. Puis il explique que c'est quelque chose qui n'est pas juste chez l'humain, là. En général, quelque chose comme ça semble émerger dans toutes les lignes d'évolution qu'on connaît. Même si on veut faire des robots, il faut qu'on leur donne des systèmes un peu comme ça parce que c'est beaucoup plus efficace d'avoir deux systèmes spécialisés qui travaillent ensemble que d'avoir juste un système qui essaierait de tout faire en même temps et qui ferait en fait rien bien. Mm-hmm. Puis,
comme dans tous les organismes aussi.
Oui, les dualités qui s'assemblent dans quelque chose de plus haut, c'est comme ça qu'on réussit à faire des choses complexes.
Ouais.
Puis dans son livre, il y a d'autres personnes qu'on peut mentionner, mais dans son livre qui a fait assez d'éclat en 2012 quand c'est sorti, on voit clairement que l'athéisme, puis spécifiquement le matérialisme réductionniste, où on essaie de tout réduire à un système matériel qui serait physique en principe, c'est une dérive qui peut juste être temporaire, en fait, vers l'hémisphère gauche qui essaie de justement tout réduire en système. Puis c'est très drôle parce que dans son livre, il dit même que si tu regardes certaines figures des Lumières ou de la Renaissance qui ont eu un gros impact dans notre civilisation pour nous rendre matérialistes, c'est des gens qui semblent schizophrènes, selon lui. Là, il lit des écrits de Kant ou de Descartes, puis il voit des gens qui sont tellement déconnectés de leur corps, déconnectés de leur expérience, qu'il dit qu'ils ont carrément un problème comme au niveau santé mentale, ces gens-là.
Fascinant.
C'est cohérent avec leur postulat philosophique dualiste, en fait.
Il
divise le corps et l'âme.
Exact. Selon McGilchrist, ces deux choses-là se renforcent. Où tu vois une philosophie qui est un peu à l'image de ta vie, puis ta vie va être informée par ta philosophie à l'inverse. Donc ces deux choses-là se renforçaient, puis Descartes et Kant sont comme des avatars de la vision qu'on a héritée aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on peut diagnostiquer même sans faire de métaphysique comme étant limité, comme étant limite schizophrène à partir simplement de la psychologie.
Et cet auteur-là, c'est bon de le souligner, qui critique le matérialisme réductionniste et ne s'identifie pas comme chrétien du tout.
Non, là. Même pas. Il est intéressé par certains aspects du christianisme. Je pense qu'avec les années, il devient de plus en plus intéressé, mais certainement quand il a sorti ce livre-là, il s'associait absolument à aucune religion. Mais c'est pour donner une bonne image de comment des arguments sont arrivés très, très fortement contre le nouvel athéisme milieu des années 2010.
As-tu d'autres exemples d'arguments qui ont été déboulonnés, déboutés, des arguments qui étaient facilement colportés dans le mouvement du nouvel athéisme et qui ont été pulvérisés là, avec les années, avec la montée, entre autres, là, des apologètes?
Oui, un très bon qui fait couler beaucoup d'encre ces temps-ci, surtout dans les milieux athées eux-mêmes, c'est la réalisation que nos valeurs nous viennent du christianisme. Il y avait une caricature historique qui a été faite principalement par des propagandistes de la Renaissance, comme quoi le Moyen-Âge ou le christianisme en général était une période obscure, en anglais on dit « dark ages », où on a juste étouffé tout le progrès que les Grecs et les Romains avaient fait. Puis ensuite, finalement, une fois qu'on a réussi à enlever la grande noirceur du christianisme, on est revenu à une grande culture avec les valeurs rationalistes qu'on a depuis la Renaissance. Puis ça, maintenant, t'as des historiens, des psychologues athées qui disent que ça, c'est clairement faux. Il n'y a plus personne qui croit ça sérieusement dans des milieux intellectuels plus sérieux. La civilisation antique était difficile à imaginer. En fait, elle est difficile pour nous à imaginer dans son immoralité parce qu'on est tellement habitué de voir le monde à travers
les lunettes de la Renaissance.
Oui, puis des lunettes chrétiennes, notamment. Ouais. Donc, maintenant, c'est devenu un peu une blague là, connue en ligne dans les milieux athées ou les milieux contre l'athéisme, que des gens comme Richard Dawkins pensent que leur moralité, qui est le rationaliste une fois qu'on se débarrasse de l'athéisme. En fait, c'est le christianisme dans toutes ses valeurs sans qu'on s'en rende compte. Donc, tout le travail moral qui a été fait par le christianisme, les nouveaux athées ne s'en rendent juste pas compte puis ils pensent que c'est quelque chose d'évident auquel on va arriver si on se débarrasse de la religion, alors que dans les faits, ce n'est pas du tout ça. On sait, par exemple, que chez toutes les civilisations antiques, la tyrannie, c'était quelque chose de normal. Les gens qui étaient au-dessus avaient tout le pouvoir sur les gens qui étaient en dessous. On ne se préoccupait pas des gens qui étaient en dessous. Quand, par exemple, César revenait d'Europe en disant avoir tué 1 million de Gaulois puis avoir fait 1 autre million de Gaulois en esclaves, les gens l'acclamaient dans la rue, le suivaient derrière, le vénéraient comme un dieu, parce que c'était quelque chose de positif pour ces civilisations-là. Ou on peut penser comment les citoyens romains avaient le droit de faire n'importe quoi sur des gens qui n'étaient pas des citoyens romains, sur leurs esclaves, sur des femmes qui n'étaient pas des citoyennes romaines. Ils pouvaient faire n'importe quoi. Puis, c'était pas quelque chose que les gens pensaient comme anormal ou mauvais. Maintenant, quand des gens vont juger le christianisme, par exemple, en disant que c'est trop patriarcal ou comment est-ce qu'on traite les homosexuels, etc., ce genre de souci-là pour les pauvres, pour les gens marginalisés, c'est quelque chose qui vient du christianisme sans qu'ils s'en rendent compte.
Yes.
Puis maintenant, c'est quelque chose que des historiens sont capables de voir trop clairement pour qu'on le nie. Comme le cas historique est très, très fort contre l'idée qu'on deviendrait simplement des personnes illuminé en devenant athée.
Mais à contrario aussi, on voit bien que les deux grands régimes totalitaires du 20e siècle étaient foncièrement athées. C'est quand même
ouais, exact.
C'est pesant comme argument, non?
Oui, je, tout à fait. C'est comme à grande échelle le même genre de choses qu'on a observé chez les nouveaux athées. Ça, c'est un très bon argument aussi contre les nouveaux athées parce que c'est un argument pratiquement scientifique, là, c'est empirique. On regarde qu'est-ce qui s'est passé démographiquement avec les gens qui sont devenus athées depuis tout ce boom d'édition. Puis dans les faits, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont arrêté de s'associer à une religion officielle, des gens qui sont devenus des nonnes, des gens sans religion, sans affiliation religieuse officielle, de l'ordre de quelques dizaines de pourcents, peut-être depuis les années 90. Mais le nombre d'athées a très peu augmenté. Depuis les dernières décennies, le nombre d'athées a passé peut-être style de 2 à 3
%. Okay. C'est vraiment malgré minime. Malgré tout ce qui a été déployé médiatiquement
exact.
Au début du siècle qui nous concerne. Fascinant. Un dernier mot, Jean-Philippe, là, je veux t'entendre. Je t'ai présenté comme quoi tu allais nous dire que l'important, c'est de rester bizarre. Ouais. tiens ma promesse, s'il te plaît. Dis-nous.
Ouais. Ben, il y a beaucoup de gens dans le christianisme ou en dehors du christianisme qui parlent présentement justement de réinvestiguer le christianisme maintenant qu'on voit cet échec-là du nouvel athéisme. Puis, une des choses qui revient souvent, c'est qu'il faut que les chrétiens restent bizarres. Maintenant que l'échec de la culture est plus évident, c'est pas le temps d'essayer de trop accommoder la culture. Les gens voient déjà que le nouvel athéisme remplit pas leurs besoins et les gens vont chercher ailleurs. Tantôt, je disais qu'il y a juste 1% plus d'athées qu'il y avait il y a 30 ans, même s'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus d'affiliation religieuse officielle. Mais ces gens-là sont rendus attirés par des choses New Age ou sont spirituels, mais pas religieux. Ils créent leur propre religion. Ils cherchent quelque chose de bizarre, quelque chose qui n'est pas matérialiste. Il ne faut pas leur donner quelque chose qui serait trop matérialiste, trop facile d'accès, disons.
Une réduction encore du christianisme.
Mais ce serait quoi un christianisme non bizarre?
Un non bizarre, il y a par exemple des églises anglicanes, des églises méthodistes qui ont tellement accommodé la culture, par exemple, qui vont accepter toutes les valeurs de la culture, puis qui ne vont pas prendre de position solide, forte. Les gens dans ces traditions-là, en fait, ne voient pas c'est quoi.
C'est quoi la plus-value d'aller dans ces églises-là versus continuer de vivre dans le monde tel qu'on vit?
Exact. Fait que concrètement, ces églises-là sont en train de s'effondrer. Puis les églises qui grandissent, c'est les églises qui sont bizarres. Fait que ça va être les églises qui sont charismatiques ou traditionnelles. Fait que mettons les églises latines, les églises orthodoxes.
À contre-courant, finalement.
Exact. Fait que tu peux être bizarre en étant ancien ou en faisant quelque chose de charismatique qui est clairement une réjection de la modernité puis du matérialisme. Donc, concrètement, on voit bien ce qui s'effondre, c'est si on essaie de ne pas être bizarre. Puis si on est prêt à rester bizarre, à assumer le fait qu'on est différent dans la culture puis qu'on a quelque chose de supérieur à offrir, là, c'est quelque chose qui attire les gens puis c'est des églises qui grandissent.
Jean-Philippe Marceau, on va pouvoir lire ton texte sur le sujet. C'est sur le site du Verbe, leverbe.com. Je me souviens plus comment on a intitulé ça. Je pense que c'est autour du déclin de l'athéisme. Restez bizarre. Ou le déclin de l'athéisme. Jean-Philippe Marceau, tu es blogueur pour The Symbolic World. Tu as un livre à paraître bientôt. Tu vas revenir nous en parler assurément. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement.
James Langlois, journaliste pour Le Verbe Média, bonjour.
Salut.
Toi-même, ancien athée, on l'a dit plus tôt, tu avais envie de nous encourager aujourd'hui à l'athéisme. Hein? C'est un peu intriguant. Tu sais qu'on n'est pas du monde, là, c'est produit par Le Verbe Média, un média ouvertement catholique. T'as pas un peu peur de perdre ta job, par exemple?
Vous jugerez après, mais oui, effectivement, je pense que c'est inspiré en fait d'une réflexion de quelques passages de Simone Veil dans son livre « La pesanteur et la grâce », une mystique chrétienne, juive à la base, qui est devenue chrétienne, et qui, dans ce livre-là, a un chapitre intitulé « L'athéisme purificateur ». C'est très intéressant parce que je pense qu'il y a comme deux types d'athéisme qu'on pourrait distinguer, c'est-à-dire il y a un athéisme passif, hein, vraiment, qui est plus quelqu'un qui, d'une manière honnête, faute de raison de croire, un peu aussi par ignorance, dit que Dieu n'existe pas. Et un athéisme un peu plus actif, en fait, qui est militant, là, comme moi je l'ai été ou comme peut-être Jonathan l'a été.
Est-ce que tu dirais que tous nos contemporains là, qui se déclarent agnostiques sont des athées passifs?
Ben là, je ne sais pas, parce qu'agnostique, c'est autre chose. C'est ne pas savoir ou prétendre ne pas savoir, alors que l'athée va quand même dire « non, Dieu n'existe pas ». Puis tu sais, la particule « athéisme », c'est ce que ça signifie, ça veut dire qu'il y a une privation de Dieu. Mais encore là, il y a une négation de l'existence d'un ou des dieux. Mais ce qui est intéressant, Antoine, c'est que même dans l'Antiquité, les chrétiens ont été accusés d'athéisme, hein, parce que les chrétiens refusaient de vénérer l'empereur et les dieux romains. Donc ici, on peut dire, ouais, ben ils sont athées. On est toujours athée d'un dieu ou des dieux. On est toujours athée de quelque chose. Et même, on pourrait dire à l'inverse que on adore toujours un dieu ou l'autre. Hein. Les chrétiens, on prétend adorer le dieu révélé par le Christ. Mais quand on nie cette adoration-là, on finit par adorer un autre dieu, que ce soit soi-même ou que ce soit le dieu de la technologie, du sport, de l'argent, du pouvoir, etc.
Fait que la vraie question, c'est pas est-ce que Dieu existe, mais en quel dieu je crois finalement.
En quel dieu est-ce qu'on croit, en quel dieu est-ce qu'on sert. Puis encore là, d'emblée, souvent dans les débats athées croyants, on oublie de passer par le chemin de la définition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met devant le mot « Dieu » aussi. À quoi le mot « Dieu » réfère-t-il? C'est quoi la conception qu'on a de Dieu? Parce que tout de suite, quand on parle de Dieu avec un grand D, on pense justement au Dieu chrétien en général. On va s'imaginer justement un bonhomme avec une toge sur son nuage qui regarde tout ce que tu fais. Puis ça, les athées, les nouveaux athées, ils ridiculisaient ça en disant « si c'est ça, la foi, moi, je veux rien savoir de ça », puis avec raison. Donc, il y a une forme de vérité là-dedans, parce que moi-même, je croyais ça quand j'étais athée. Quand je me suis aperçu un jour que c'était pas ça en quoi croyaient les chrétiens, j'ai dit « bon, ça fait du bien de savoir ça ». Mais voilà, donc, l'athée militant, finalement, l'athée, c'est déjà une forme de profession de foi, parce qu'il va arriver à prouver la non-existence de Dieu avec le même niveau de certitude presque que les croyants parfois veulent démontrer l'existence du Dieu chrétien, ce qui ne marche pas non plus. Puis souvent cet athéisme militant-là va même cacher une hargne, une hostilité, un orgueil finalement qui est de ne pas vouloir servir un autre que soi, même si dans le fond, comme je l'ai dit, on finit toujours par servir autre chose dans la vie. C'est ça, ce qui est intéressant, c'est que l'athée, dans sa volonté de vouloir nier Dieu, finalement, il se définit quand même en opposition à Dieu. Donc, il ramène toujours la question à Dieu en montrant que la pertinence de se poser la question de l'existence de Dieu est là.
Je vais faire un parallèle boiteux. Ouais. Il n'y a pas grand monde qui parle autant de viande que les véganes.
non, mais c'est exact.
Non, mais en tout respect pour mes amis véganes, je veux dire, dans le fond, il n'y a personne qui parle autant de Dieu que les athées. Sam Harris a passé sa carrière à parler de Dieu, finalement.
Ben voilà.
Bien plus que toi puis moi, James.
Puis, bon, ça me ramène à Simone Veil, c'est-à-dire que, comme je le disais, qu'est-ce qu'on met sous le nom de Dieu? Puis on a besoin parfois de purifier notre conception de Dieu. Et Simone Veil dit « Le faux Dieu, qui ressemble en tout au vrai, empêche à jamais d'accéder au vrai. Croire en un Dieu qui ressemble en tout au vrai, excepté qu'il n'existe pas, car on ne se trouve pas au point où Dieu existe. » Donc, c'est ce qu'elle a nommé l'athéisme purificateur, et elle ajoute « La religion en tant que source de consolation est un obstacle à la véritable foi. En ce sens, l'athéisme est une purification. » Donc, quand on veut suivre le Christ, quand on est chrétien, normalement, on est amené à toujours développer à rencontrer le Seigneur d'une manière qui nous est toujours nouvelle, où on apprend à le connaître davantage, puis à voir que ce qu'on pensait de Dieu, c'est pas tout à fait ça. Comme moi, je refusais l'idée que, quand j'étais athée, que Dieu soit quelqu'un qui nous laisse souffrir. Je me disais, c'est un Dieu pervers, masochiste. Mais quand on se laisse conduire par le Christ dans cette rencontre-là avec le visage de son Père, on se rend compte que finalement, il nous amène ailleurs. Puis si on s'arrête à l'idée, à la conception qu'on se fait de Dieu, eh bien, on peut stagner parce qu'on ne veut pas nécessairement arriver à voir autre chose que ce qu'on pense.
J'ai enfin compris, j'ai enfin rentré Dieu dans ma petite boîte. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de ciel et terre. Et tout ça, ça rentre bien dans mon schéma
avec
de pensée.
Avec ce que je pense, avec ce que je pense, c'est que je mets derrière ces mots-là.
C'est conforme à mon existence qui est bien tout cadré. Et là, ça, c'est le meilleur moyen, dit Simone Veil, de ne jamais rencontrer Dieu et d'être finalement un athée pratique.
Exactement. Puis de cette manière-là, on est toujours athée d'une certaine image de Dieu, finalement. Une image de Dieu dont on refuse l'existence. Et puis, donc, on a parlé beaucoup des athées en début d'émission, on peut souvent voir l'athéiste comme le pire ennemi de la foi. Mais en fait, peut-être que le pire ennemi de la foi, c'est peut-être le chrétien, finalement, qui pense avoir tout compris, ou pire, qui a vu ou expérimenté le véritable Dieu et qui refuse de le servir. Et au fond, Saint Jacques nous dit que les démons, c'est ce qu'ils font. Mm-hmm. Les démons croient en Dieu, les démons ont la foi parce qu'ils savent que Dieu existe, mais ils ne veulent pas le servir. Et pourtant, on n'a jamais vu le Christ dans les évangiles accuser les athées, mais peut-être qu'à l'époque, ça n'existait pas tant que ça, il n'y en avait pas tant que ça.
Ça ne courait pas les rues.
Mais au contraire, il s'attaque à ceux qui prétendent connaître Dieu comme il se doit, ceux qui prétendent être les plus purs, les plus parfaits. C'est peut-être ces croyants-là qui ont plus en commun avec le démon que les athées.
Aïe, aïe, aïe.
Tous les démons savent c'est qui Jésus en plus.
Voilà.
À chaque fois, ils le connaissent, ils tremblent.
C'est ça.
Ouais.
Merci beaucoup, James.
T'en prie.
Jonathan Picard, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde.
Merci, bonjour Antoine.
Jonathan, on a découvert récemment ton balado, là, je le disais plus tôt sur la chaîne YouTube de CDQ.tv. Ça s'appelle « Catholique sceptique ».
Tout à fait.
Pourquoi?
Parce que je suis sceptique et je suis catholique. C'est tout pour moi.
Bonsoir.
Merci beaucoup. Mais c'est vrai, je suis catholique, j'ai été récemment baptisé. Mais je viens d'un courant très, très sceptique et anti-religieux, tout ça, dans l'adolescence. Je me suis séparé de mon éducation chrétienne, moi aussi. Et puis, j'ai été tout à fait influencé par le mouvement du nouvel athéisme, mais particulièrement sur YouTube, en fait.
OK. Raconte-nous. Tu avais quel âge à ce moment-là?
On va dire entre 15 et 20 ans, là. Ouais, mais entre 15 et 24 ans, en fait. C'est pas mal plus ça.
OK.
Fait que ça a été presque 10 ans là, de drillage mental, de vulgarisateurs, des ouvrages faits par les quatre chevaliers du nouvel athéisme. Là.
D'endoctrinement.
un peu quand même. Mais c'est parce que ce qui était étrange, c'était ces athées-là, qui avaient ces chaînes YouTube-là, tout ça, étaient des bons vulgarisateurs, étaient des bons communicateurs, étaient aussi des bons entertainers, t'sais, des bons divertisseurs. Ils étaient super bons dans ce qu'ils faisaient, le montage, tout ça, le style de vidéo. Puis c'était un peu vulgaire aussi, fait que let's go, ça fait rire. Et puis, ça, ils vulgarisaient beaucoup de ces arguments-là et qui, moi, le christianisme de mes parents n'est pas un christianisme intellectuel, tout ça. Et donc, voilà, quand on a un petit peu des conflits familiaux, une petite rébellion adolescente, tout ça, ben, le premier argument qui semble avoir du sens et qui va à l'encontre d'un système rigide dans lequel on grandit.
On le prend
et on run with it, comme on dit. Uh-huh. Et puis, ça l'a mené à une déconversion plus officielle dans le coin de 17-18 ans. Là,
OK. Ouais. Tu avais reçu la foi ou du moins un enseignement chrétien à la maison?
Mes parents sont protestants.
OK.
Mes parents sont protestants et puis j'ai grandi dans le protestantisme, on n'allait pas à l'église, tout ça, tu sais. Mais on connaissait très bien la Bible.
Tu avais entendu parler de Jésus
absolument,
en masse. Là.
Très jeune. Et puis d'ailleurs, tu sais, je dis rébellion contre une rigidité parentale. Mes parents n'étaient pas rigides. Mes parents n'étaient pas rigides. C'est qu'ils étaient. Ils étaient même. Ils sont très, très aimants. Et leur religion est profondément vécue. leur amour de Jésus est profondément vécu et je vais toujours dire que le premier contact que Dieu a eu avec moi, c'est avec mes parents. Fait que c'était pas, je me faisais pas fouetter, il y avait, il y avait pas de peur d'aller en enfer, des affaires comme ça. C'était vraiment très, très amour. Là,
ouais. Et malgré ça, c'est ça, tu dis que tu as vécu une déconversion, c'est la première fois que j'entends
moi aussi,
ça.
C'est...
alors, tu as, j'allais dire rétro-pédalé, mais tu, finalement, tu as rejeté, en tout cas, assurément, cet héritage-là qui t'avait été transmis autour de 17-18 ans,
ouais.
après avoir consommé des heures et des heures de vidéos sur YouTube.
Ouais.
C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Comment tu dis, pourquoi tu dis à 17-18 ans plus particulièrement, il y a eu un changement?
Le revirement. Ouais, c'est sûr qu'il y a, une question d'exposition prolongée qui influe sur mon psyché. C'est sûr que oui. Mais aussi, finalement, c'était pas les arguments intellectuels tant que ça qui m'ont fait chavirer. C'est vraiment plus un état interne. C'est que dans ma famille, il y avait des grosses difficultés au niveau de la santé mentale, des choses de même. Et puis, pour moi aussi. Et donc, mettons, 17-18 ans, ces difficultés-là étaient de plus en plus dures, difficiles à vivre, finalement. Et puis, c'est une sorte de rébellion contre la vie elle-même qui m'a habité. Un gros sentiment d'injustice et de haine pour l'existence. Et fait que c'est très émotionnel, finalement, ma déconversion. Et
sous un couvert rationnel, finalement, c'est ça qui est
intéressant. C'est exactement ça, c'est ça. Puis en plus, tu as de l'air intelligent. Tu dis, ah, ben là, moi, tu sais, tel auteur, j'ai lu « God is not great, the God delusion », des affaires de même. Ben, je disais que je le lisais, mais c'est pas vrai. J'écoutais ça sur YouTube, puis je disais que je le lisais, puis j'avais vraiment l'air hot. J'achetais plein de livres, j'en lisais aucun. C'était vraiment, là, c'était quelque chose. Et puis, mais
il y a des chrétiens qui font ça aussi.
Ben oui, bien sûr, je le fais encore. Mais c'est juste que... c'était des prétextes, des excuses de mettre des mots intelligents derrière, finalement, juste
ton mal-être.
Un gros mal-être. Ah. Ouais.
Donc, tu as trouvé une forme de réponse, ou du moins, est-ce que ça t'a satisfait longtemps?
L'athéisme?
Ouais.
Ben oui, parce que dans un sens, ça légitimait mes écarts moraux. Ça légitimait ma conscience me condamnait. J'ai quand même relativement mal viré là, pendant ce temps-là. Ma conscience me condamnait et je voyais dans l'absence de moralité chrétienne une sorte d'opportunité d'émancipation, une opportunité d'être vraiment libre. Je voyais ça comme une liberté.
Ouais.
Ouais.
Tu dis que tu as mal viré dans la limite de ce que tu es prêt à partager.
Ouais, ben, oui, j'ai consommé beaucoup de drogue. J'ai consommé beaucoup de drogue et j'ai été très manipulateur et opportuniste avec mes fréquentations. Vraiment, là, j'ai profité des gens plus naïfs que moi, tout ça, mon cercle d'amis, tout ça, qui étaient tout un petit peu nihilistes, là, mais qui étaient, on va dire, plus naïfs que moi aussi à certains égards. Et je choisissais mon cercle pour vraiment être le boss des bécosses, dans le fond. Et puis, je m'auto-accuse d'avoir été un gros manipulateur, menteur et en plus un addict assez sévère. Et puis aussi, je me suis beaucoup séparé de ma famille parce qu'ils vivaient des difficultés qui me faisaient trop mal, dans le fond. Et puis, je me suis beaucoup séparé d'eux. Encore une fois, les problèmes de santé mentale, tout ça, tu arrives, tu grandis et à un moment donné, tu réalises que tes parents sont humains et... Le monde chute et puis c'est ça.
Et que le fait que la foi ne leur a pas épargné ces souffrances-là.
Ça, c'était un gros morceau.
C'est un scandale, en quelque sorte. C'est un dur à avaler. Ouais.
C'est un gros morceau. Encore aujourd'hui, c'est un gros morceau. Ouais. On peut parler du problème de la souffrance et du mal, tout ça, mais c'est clair que j'étais plongé direct là-dedans. Je voyais la belle foi que mes parents ont et pourtant les grandes difficultés, les grandes souffrances injustes qu'ils peuvent vivre.
Ouais.
Je me dis, finalement, une chance qu'ils ont ça. Parce que une chance qu'ils ont ça, au moins ils ont ça, mais dans le fond, genre pourquoi ils ont ça là,
c'est une béquille,
la religion, ça sert à consoler la peur de la mort et tout ça. Puis pourtant, eux autres, ils souffrent pareil énormément, alors qu'ils seraient donc bien plus libres et donc bien plus émancipés intellectuellement s'ils laissaient faire ces vieilles superstitions-là. Fait que j'en voulais à leur manque de rigueur intellectuelle, alors que moi, encore une fois, j'achetais plein de livres que je lisais pas. Ça ressemblait à ça.
Jonathan Picard, t'as vécu cette période d'athéisme intense là, d'autour de 15 ans jusqu'à mi-vingtaine, tu le disais tantôt, et c'est allé même plus loin que l'athéisme.
Oui, fait que, à partir d'à peu près 18 ans, 19 ans, tout ça, j'ai commencé à m'intéresser à un YouTuber qui s'appelle Mr. Repsion et qui était encore un vulgarisateur des intellectuels athées, tout ça. Et à un moment donné, il avait fait une vidéo sur le satanisme. et sur le satanisme athée, de, tel que écrit dans le livre « La Bible satanique » par Anton LaVey. Et puis, je suis un petit peu tombé en amour parce que j'étais très métalleux dans ce temps-là.
Métalleux, définir ce qu'est un métalleux.
Définir métalleux.
Tu faisais des soudures dans ton sous-sol de métal. Oui,
c'est ça, un petit DEP, tout ça. Non, c'était que j'aimais la musique qui fait du bruit puis qui crie.
Ah, du métal, du heavy metal.
Du gros métal, mm-hmm. Du gros death metal, tout ça. Donc, l'esthétique diabolique, tout ça, très rouge et noir, pentagramme dans la face, de faire de même, ça me rejoignait. Et là, je voyais que dans le courant athée, il y avait ce petit embranchement-là qui était le satanisme athée.
Mais c'est un peu contradictoire, satanisme athée. Un athée ne croit pas aux esprits, au monde immatériel. On le voyait un peu plus tôt dans l'émission avec ce matérialisme-là qui est assez bien diffusé dans l'athéisme.
Ouais.
Comment tu peux être athée et sataniste, donc croire à un esprit du mal?
C'est comme une sorte de position de rébellion extrême envers la religion. L'auteur de la Bible satanique, Anton LaVey, était un athée, donc il ne croyait ni à Dieu ni au diable, sauf qu'il a utilisé le langage chrétien, donc en parlant de Satan, puis la symbologie, tout ça. Il faisait des messes noires, des affaires comme ça. Mm-hmm. Et c'est pas parce qu'il sacrifiait des bébés, c'était juste, il faisait
la
parodie. La provocation, c'est en plein ça. La provocation, de la parodie, de la satire. Mm. La satire antireligieuse, en gros, c'est ça. Et il parle dans son livre de l'importance du psychodrame, qui est une sorte de jeu de rôle.
De théâtre.
Tu vas prier, tu vas faire des messes noires, tu vas faire des prières, tu vas allumer des chandelles noires, tout ça, parce que c'est bien pour l'humain d'avoir une sorte de drame, de semi-jeu comme ça, ouais. D'avoir une histoire spirituelle, d'être de s'accrocher à quelque chose qui les dépasse, mais purement par théâtralité.
T'as embarqué là-dedans, toi.
Et j'ai embarqué là-dedans. J'ai même acheté des bijoux officiels sur le site de l'église de Satan.
Ah, OK, il y a une pièce à faire avec ça.
Oh, il y a une méchante bonne pièce à faire avec ça. Ils sont chers, les bijoux. J'étais vraiment content de utiliser mon petit change pour ça.
Ben oui.
Beau petit pentagramme là, en bijoux, tout ça. Puis j'ai des chandelles. Puis j'en ai faites. Et puis, le problème avec ça, c'est que quand on adhère au principe du psychodrame, tel que dit par Anton LaVey, c'est qu'à un moment donné, ça dépasse l'athéisme. Quand tu dis à ton corps de faire des rituels, à un moment donné, ton esprit va commencer à croire ce que ton corps fait. Et c'est d'ailleurs l'importance pour moi d'aller à la messe, des choses comme ça, c'est de faire. Notre corps nous dit de croire ça, dans le fond. Notre corps fait la croyance. Et à un moment donné, notre tête y arrive et notre cœur y arrive aussi. Donc, c'est pour ça que dans le satanisme, c'est la même chose qui se passe, même si c'est athée initialement.
Ouais.
À un moment donné, tu t'embarques là-dedans. Là.
James?
Je dis, c'est un peu contradictoire même parce que Anton LaVey renverse les valeurs chrétiennes. Donc, plutôt que l'humilité, la faiblesse, tout ça, la vulnérabilité, lui, il va promouvoir la force,
oui.
le narcissisme, l'égocentrisme, oui. l'individualisme.
Oui.
Puis quand tu es dans ces valeurs-là, finalement, que tu le veuilles ou non, tu finis par adhérer à ce que Satan promeut.
Absolument.
C'est ça qui est là.
Absolument. Et c'est pas même pour ça que ma petite théorie qui vient pas de moi, mais que je me souviens plus de qui, c'est que la plus pure forme de satanisme qui existe, c'est ça. Mm. C'est vraiment ça. C'est comme dire que le diable veut pas qu'on croie qu'il existe. Là.
Ouais,
c'est un petit peu ça. C'est la plus pure forme de satanisme, c'est de faire tout ce que Satan veut, mais finalement d'une manière qui est détachée de la croyance au supernaturel.
Et, parce que c'est quand même rare des gens athées qui vont dire ben moi je vais faire comme si Dieu existait. Le Dieu, je vais devenir chrétien pour le fun. Ça existe, mais on s'entend, c'est assez rare.
Mm-hmm. Ouais.
Jonathan Picard, qu'est-ce qui fait que tu es sorti de... En tout cas, j'espère que tu es sorti, t'es plus sataniste.
Oui,
OK, c'est bon. On n'a pas passé de test là, avant de rentrer ici. On aurait peut-être dû, je ne sais pas.
J'aurais dû mettre de l'eau bénite.
Ben ouais, c'est ça. Pish.
Ouais.
Dis-nous, qu'est-ce qui t'a fait sortir de ce milieu-là, Jonathan?
Une douleur excessive, vraiment. La souffrance.
Ouais.
C'est la souffrance qui m'a fait sortir de là.
Parce qu'on n'est pas bien quand on est là-dedans.
Absolument pas. On n'est absolument pas bien quand on est là-dedans. Et James, tu disais quelque chose d'absolument essentiel, je trouve, là, qu'on adore tous quelque chose. On a tous un Dieu, finalement. Et ça, c'est vrai, une valeur ultime qu'on peut dire, là, pour, mettons, des gens plus séculiers. Là, on a tous une valeur ultime qu'on va poursuivre et qui va un petit peu dicter notre vie.
Ouais, ça, vers quoi on guide tout.
Vers quoi on guide tous nos gestes. C'est quoi ce qu'on veut ultimement pour notre vie? Et ça, souvent, ça va être la puissance, ça va être le pouvoir, l'influence, la richesse, le plaisir. Moi, c'était beaucoup ça, le plaisir. Et toutes des choses que Satan représente, les choses de ce monde qui part, reste attaché aux choses de ce monde qui part. Et puis, mais c'est ça, quand on est là-dedans, on vit un petit peu pour rien, finalement. parce qu'on vit pour quelque chose qui s'en va de toute façon. Et donc, ça laisse un énorme vide existentiel. Et c'est ce vide-là existentiel face à la souffrance de ma famille. Et moi, j'ai commencé à faire des angoisses absolument énormes. Et avec l'abus de substances, évidemment, ça l'a empiré.
Ben ouais.
Et c'est de comprendre que je ne l'avais pas du tout l'affaire. Et que je dois beaucoup ma conversion à mon père, parce que mon père, niveau santé mentale, il y a eu des épreuves assez épouvantables. Quand j'ai vécu les mêmes, je me suis dit, lui, comment il fait pour s'en sortir, là? Et c'est là que ça a commencé dans ma tête à faire un peu une hésitation, à me dire un peut-être, et si c'était vrai, et si c'est ça qui le fait passer à travers ça. S'il y avait une chose que mon père voulait que je sache quand j'étais petit, c'était Jésus, suis Jésus, c'est lui la vie. Je regardais ça de haut, tout ça, mais quand finalement j'ai goûté à ces eaux-là au fond du baril, je me suis dit, et si c'était vrai, c'est là que ça a commencé.
Mais là, tu es devenu catholique. Je veux dire, tu as continué à t'opposer à ce que tes parents
avaient. Ouais, c'est ça. Faut quand même, je m'en garde un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je suis devenu catholique.
C'est toi le protestant, là.
Ouais, c'est ça. C'est ça, le méta-protestant. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, ben c'est sûr que une des raisons pourquoi je m'appelle catholique sceptique aussi, c'est parce que je suis sceptique même envers les croyances que je tiens aujourd'hui. Mais je suis allé vers le catholicisme spécifiquement. Ça, plus pour des raisons intellectuelles qu'émotionnelles. On va dire l'émotion, le vécu existentiel m'a fait tourner vers le christianisme. Mais le catholicisme, c'est parce que je trouve que ça a du sens que le même Esprit-Saint qui a inspiré les divines écritures aurait aussi inspiré une tradition interprétative de ces écritures-là. Pour vrai, le catholicisme, pour moi, ça m'attire à cause de ça. Aussi parce que je suis quelqu'un de relativement matérialiste. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, l'union du physique et du spirituel, c'est important. Je suis assez cartésien.
Puis dans les sacrements, on a des signes matériels toujours.
There you go. C'est exactement
ça. C'est ça, j'allais dire, le côté liturgique aussi auquel tu as goûté dans le satanisme.
C'est ça. T'sais. C'est ça. Et le mouvement, le rituel d'amener le corps, la réception des sacrements, c'est d'aller dans une église, dans une vraie bâtisse en briques, les odeurs, le visuel, l'auditif, les chants, pour moi, ça a du sens que la spiritualité mélange vraiment le corps et l'esprit, alors que je vois le protestantisme beaucoup comme une sorte de divorce entre le corps et l'esprit, même si la position protestante ne se limite pas du tout à ça. Là, ça. Tu parlerais à un presbytérien, ils ont aussi des églises, ils ont aussi la communion, des choses comme ça, mais d'ordre général, moi, pour moi, ça a du sens, le catholicisme, à cause de ça, même si je leur mets ça aussi en question.
Jonathan, une dernière question. Fais-tu encore du métal?
Oui, je fais encore du métal. Je suis dans un groupe qui s'appelle Hopeful 16. Je joue de la bass dans ce groupe-là. J'écris les paroles. Fait que je continue à faire du bruit, mais mon intérieur est beaucoup plus joyeux que dans le temps que j'en faisais par nihilisme destructeur.
Merci beaucoup d'être passé à On n'est pas du monde. On est très heureux d'avoir entendu aujourd'hui ton témoignage qui était pile poil avec le thème de l'émission. J'invite tout le monde là, à aller écouter ton balado sur cdq.tv, sur la chaîne YouTube de CDQ. Ça s'appelle Catholique sceptique. Jonathan Picard, c'est un plaisir de t'accueillir.
Merci beaucoup.
Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com.
C'est déjà tout pour cet épisode passionnant, mais avant de se laisser, allons-y avec des suggestions culturelles, des suggestions de lecture, surtout pour complémenter.
J'ai fini mon segment, Antoine, tantôt en parlant du fait que c'était peut-être les croyants qui vivaient sans charité ou qui étaient tellement convaincus finalement qu'ils ne servaient pas Dieu de manière authentique, que c'était peut-être eux les pires ennemis de la foi. Mais en fait, c'est que cette idée-là m'est venue d'un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Qui
t'allais dire adorer, mais on adore.
Exactement, tu as très bien vu.
C'est vu, là.
Et donc, ça s'appelle « La foi des démons » de Fabrice Hadjadj. Au niveau littéraire, mais au niveau spirituel aussi, c'est marquant, c'est frappant. Là, il varlope un peu tout le monde dans ce, dans ce livre-là. Puis même
les bons croyants.
Les bons, surtout comme croyants, ils nous varlopent assez fortement. Ça fait du bien, j'en suis sorti. Donc, je vous le conseille. Là, j'ai pas la date exactement.
Ça a été réédité de toute façon ça, une couple de fois. Oui. Donc, La foi des démons de Fabrice Hadjadj. On mettra les liens sous cette vidéo. Jean-Philippe.
De mon côté, je vous recommande un livre. Pour l'instant, ça existe juste en anglais. C'est sorti en 2023. Ça s'appelle « The Surprising Return of Belief in God ». C'est, à mon avis, le meilleur livre pour l'instant sur le phénomène global dont on a parlé, du passage de l'athéisme vers un retour à la croyance. C'est un super livre niveau, je dirais, combat culturel, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières 20 ans? L'auteur, Justin Brierley, c'est quelqu'un qui a fait des presque 20 ans à animer des débats entre croyants et non-croyants. Donc, il est très au fait de ce qui s'est passé dans la culture et dans les milieux intellectuels. Puis, à mon avis, il fait le meilleur tour d'horizon global sur ce qui s'est passé récemment.
Pour avoir la référence complète, on va lire ton dernier texte sur leverbe.com qui s'appelle « Rester bizarre ou le déclin de l'athéisme ». Merci, Jean-Philippe Marceau. Et rapidement, une dernière petite suggestion, Jonathan.
Oui, je ne peux pas m'empêcher de recommander « 12 règles pour une vie » de Jordan Peterson parce que c'est un livre qui, en 2019, moi, m'a fait beaucoup me questionner sur la légitimité de la foi chrétienne en tant que vraie tradition intellectuelle qui est rationnellement défensible. Et moi, ça m'a fait sortir d'un nihilisme assez pervisif.
Merci, Jonathan. Merci aussi à Barthélémy Rieux, Marie Laliberté et Marianne Martin à la technique. Et merci à vous d'avoir été là. Vous pouvez partager cette émission autant que vous voulez sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. On n'est pas du monde.